Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous avons le plaisir de retrouver Simon. Bonjour Simon.
Bonjour Laura, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques thèmes de secourisme tels que la conduite à tenir face à l'incendie d'une habitation, un accident électrique domestique ou face à un accident de la circulation. On abordera également le dégagement d'une victime en cas d'urgence et puis nous parlerons des différents cas d'étouffement des victimes et notamment chez l'enfant. Le premier point, face à l'incendie d'une habitation. Eh bien, quelques trucs et astuces très simples, mais à effectuer dans le plus strict calme si possible. Tenter de prévenir toutes les personnes en danger sans prendre de risque pour soi-même. Si vous pouvez le faire en toute sécurité, aidez les autres personnes bien sûr à évacuer le bâtiment. Alors surtout là, on pense aux enfants et aux personnes les plus vulnérables, telles que les personnes âgées. N'entrez jamais dans un lieu en feu. C'est une évidence, on appelle les pompiers, les services de secours professionnels vont se joindre à l'action de sauvetage. Ne mettez pas en péril votre propre vie, ça n'aggraverait que les opérations de secours. Éloignez-vous du lieu d'incendie, établissez un périmètre de sécurité. Alors avec les objets du bord, ce que vous pouvez, un périmètre de sécurité en mode dégradé, ça peut être avec de la ficelle, la rubalise si vous en avez, de la corde, demandez aux voisins de d'éloigner les gens et de surtout prévenir les secours dès que c'est possible. Si vous vous trouvez dans un immeuble, quittez-le immédiatement en refermant derrière vous les portes et fenêtres pour que le feu ne se propage pas. Et n'utilisez pas les ascenseurs, surtout pas, parce que le métal avec la chaleur, ça se déforme et le câble de l'ascenseur pourrait également se rompre. Vous seriez prisonnier de cette cage en métal. Et puis, ne vous engagez jamais dans la fumée. Attendez les secours. Et puis, que faire face à un accident électrique domestique? On va considérer tout d'abord que tous les câbles sont sous tension. Ne touchez pas la victime si elle est en contact avec une source électrique. Rappelez-vous aussi que les liquides et objets qui la touchent peuvent être conducteurs. Coupez le courant électrique. Si ce n'est pas possible, attendez les secours. Gardez bien en tête que si vous n'effectuez pas ces démarches, vous risquez vous aussi d'être électrocuté et ça n'aggraverait que l'opération des secours qui auront deux victimes à la place d'une. Pensez bien donc à la coupure des fluides, ce qu'on appelle fluide, par exemple le courant électrique dès l'arrivée qu'on distingue les symptômes d'un malaise dû à un choc électrique, on coupe par exemple le compteur principal ou disjoncteur de la maison ou des locaux concernés. Truc et astuce, les gestes et conduites à tenir face à un accident de la circulation. Respectez toujours le code de la route. Lorsque vous approchez du lieu de l'accident, allumez vos feux de détresse, ralentissez en douceur, garez votre véhicule au-delà du lieu de l'accident, dans un endroit sûr, et essayez de revêtir un gilet de sécurité réfléchissant pour votre propre sécurité. Faites descendre tous les occupants de votre véhicule et invitez-les à se placer sur le bas-côté, derrière les glissières de sécurité prévues à cet effet, s'il en existe. Prévenez et alertez les secours. Mettez en place une signalisation à 150 ou 200 mètres de part et d'autre de l'accident en utilisant soit des triangles de présignalisation, des témoins munis de lampes électriques ou de linges blancs s'agitant pour faire signe aux autres automobilistes. Dans la mesure du possible, stabilisez les véhicules accidentés en actionnant leurs freins à main. Attention, ne jamais traverser une autoroute ou une voie rapide à pied. Prenez toutes les mesures préventives contre l'incendie également. Coupez le contact des véhicules impliqués dans l'accident. En cas de feu naissant dans un compartiment moteur, par exemple, utilisez un extincteur. Dissuadez toute personne de fumer aux alentours du lieu de l'accident. Et puis maintenant, nous allons aborder le dégagement d'urgence d'une victime. En règle générale, une victime ne doit pas être déplacée. Toutefois, vous pouvez être amené, si la situation l'exige, à transporter une personne vers le lieu sécurisé le plus proche. Si la victime est consciente, demandez-lui de coopérer. Saisissez-la solidement par les poignets, les chevilles ou à défaut un vêtement résistant, puis tirez-la au sol. Tentez de protéger la victime du froid, de la chaleur et couvrez la victime avec un manteau, une couverture ou encore une couverture isolante, ce serait le mieux. Pour protéger une victime de la chaleur, faites-lui de l'ombre avec une veste, une couverture ou un parapluie. Positionnez-vous de façon à lui faire de l'ombre aussi. Nous allons aborder, en tant que sauveteur isolé toujours, le cas de la victime qui s'étouffe. Les enfants peuvent s'étouffer en inhalant des corps étrangers. Chez les adultes, l'étouffement survient généralement au cours d'un repas, en présence d'autres personnes. Dans tous les cas, il faut agir vite. La victime s'étouffe et répond. La victime répond à votre question en disant « Je m'étouffe ». La victime peut encore parler, tousser et respirer. Incitez la victime à continuer à tousser. Installez la victime dans la position où elle se sent le mieux, le plus souvent assise. ne rien faire de plus. Demander un avis médical, le 15, et suivre les consignes données. Rester auprès de la victime jusqu'à ce que les secours arrivent et la prennent en charge. Si la victime s'étouffe et ne répond pas, la victime ne peut pas répondre. Elle secoue éventuellement la tête, mais est inconsciente. La victime ne peut ni parler, ni respirer, ni tousser. Elle peut émettre des sifflements ou tenter de tousser sans émettre de bruit. Donner une à cinq claques dans le dos de la victime, jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Si les claques dans le dos n'ont pas d'effet, effectuez une à cinq compressions abdominales chez l'adulte et l'enfant, ou thoraciques chez le nourrisson. Si le problème n'est toujours pas résolu, alternez 5 claques dans le dos, 5 compressions abdominales et ou thoraciques chez le nourrisson. Si la victime perd connaissance, accompagnez-la délicatement sur le sol et alertez immédiatement les secours. Puis, entreprenez une réanimation cardio-pulmonaire en commençant par effectuer 30 compressions thoraciques. Poursuivez la réanimation jusqu'à ce que les secours arrivent pour pouvoir vous dégager de l'opération. Bien sûr, maintenant, je vais vous parler de la technique des claques dans le dos chez l'adulte et l'enfant de plus d'un an. Tenez-vous sur le côté un peu plus en arrière de la victime, penchez-la vers l'avant en soutenant sa poitrine d'une main, ce qui permettra à l'objet obstruant les voies aériennes de ne pas s'enfoncer davantage dans la trachée. Ministrez un maximum de 5 claques entre les omoplates, chaque claque avec le talon de la main ouverte a pour but de provoquer un mouvement de tout permettant de déloger l'objet. Observez si le corps étranger a été rejeté ou non. Dans l'affirmative, la victime reprend sa respiration et tousse. Il est alors inutile de lui donner d'autres claques dans le dos. Voyons maintenant la technique adulte et enfant pour la compression abdominale. Tenez-vous derrière la victime, debout ou à genoux s'il s'agit d'un enfant, et placez votre bras autour de la partie supérieure de son abdomen. Penchez la victime vers l'avant. Placez un de vos poings fermés entre le nombril et l'extrémité inférieure du sternum. Maintenez votre poing en place à l'aide de votre autre main. Enfoncez fortement votre poing vers vous et vers le haut. Recommencez ce geste 5 fois maximum. Si la victime ne s'étouffe mais continue de tousser, elle rencontre des difficultés à avaler ou ressent une gêne, il est possible qu'une partie de l'objet soit restée dans la trachée. Quoi qu'il en soit, il convient de consulter un médecin après toute manœuvre de désobstruction et les compressions abdominales. Eh bien, elles peuvent également causer de sérieuses lésions internes. Puis pour nos auditeurs, eh bien oui, tout à l'heure je vous ai parlé du nourrisson et vous vous dites mais il ne nous a pas expliqué la technique. Alors la technique maintenant des claques dans le dos pour le nourrisson. Donc les claques dans le dos pour le nourrisson, un nourrisson dans le secourisme, c'est moins d'un an. Donc asseyez-vous, puis couchez le nourrisson à califourchon sur votre avant-bras, la tête penchée en avant, face vers le sol, de façon à ce que la tête soit plus basse que le thorax et facilite la sortie du corps étranger. Maintenez la tête avec les doigts, de part et d'autre de la bouche, sans appuyer sur la gorge. Administrez de 1 à 5 claques dans le dos, entre les deux omoplates, avec le talon de la main ouverte. Observez si le corps étranger est rejeté ou non. Dans l'affirmative, le nourrisson reprend sa respiration et crie. Inutile de lui donner d'autres claques dans le dos. La technique de la compression thoracique maintenant, chez un nourrisson, donc de moins d'un an. Placez votre avant-bras contre le dos de l'enfant, votre main tenant sa tête. Le nourrisson est alors installé entre vos deux avant-bras et vos deux mains. Retournez sur le dos tout en le maintenant fermement. Allongez la tête vers le bas sur votre avant-bras et votre cuisse en tenant sa tête dans le creux de votre main. Placez la pulpe de deux doigts d'une main au milieu de la poitrine du nourrisson. Sur la moitié inférieure du sternum, un travers de doigt au-dessus de la pointe inférieure du sternum. Effectuez de 1 à 5 compressions successives de 4 à 5 cm maximum. Après avoir administré 5 claques dans le dos du nourrisson et pratiqué 5 compressions thoraciques, vérifiez que le corps étranger ne se trouve pas dans sa bouche. S'il est visible et accessible, retirez-le délicatement. Parlez continuellement au nourrisson pour le calmer. Si le corps étranger n'est pas rejeté, chargez une personne présente d'alerter les secours. Alternez les claques dans le dos et les compressions thoraciques. Si le nourrisson perd connaissance, débutez immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire par des compressions thoraciques. Évidemment, juste à l'écoute des gestes de premier secours en tant que sauveteur isolé, il n'est pas simple de se faire des images. Je vous invite donc à consulter des sites tels que la Protection Civile ou bien la Croix-Rouge. Et de nombreux tutos sur Internet sont à votre disposition. N'hésitez pas également à vous porter volontaire pour les différentes mission et formation des associations de sécurité civile. Elles vous accueilleront avec plaisir. Et bien maintenant, nous allons voir un grand classique du secourisme. Ouvrez bien vos oreilles, c'est intéressant, il faut le retenir, ça arrive fréquemment. Une victime qui perd connaissance, mais qui respire. Donc on parle là couramment, dans le milieu commun, d'un malaise. Des malaises, il y en a différentes sortes, évidemment. Et là, la victime qui a perdu connaissance et qui respire, on a des gestes précis à effectuer. Effectivement, si la victime ne parle pas, ne réagit pas, n'effectue aucun mouvement, et si sa poitrine se soulève régulièrement, il est essentiel de libérer les voies aériennes et de la placer en position latérale de sécurité. Cette fameuse PLS que maintenant tout le monde connaît, une position latérale de sécurité. Comment agir? Eh bien, en plusieurs phases. Face à une victime qui a perdu connaissance et qui respire, vérifiez que la victime ne parle pas, ne réagit pas. Donc là, on parle d'inconscience. Libérez les voies aériennes. Donc les voies aériennes, c'est évidemment le nez, la bouche. Vérifiez que la victime respire normalement, c'est-à-dire qu'on se place à environ 10 cm des voies aériennes de la victime. On regarde la poitrine, son soulèvement. On écoute la respiration de la victime. Et on regarde éventuellement dans la bouche, évidemment, s'il n'y a pas un objet. C'est souvent ça pour les enfants, les nourrissons. On tourne la victime sur le côté, en position latérale de sécurité, cette fameuse PLS. Demandez à quelqu'un d'appeler les secours, allez chercher de l'aide si vous êtes seul. Vérifiez régulièrement la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours. Eh bien oui, évidemment, une fois qu'on a effectué les gestes de protection pour la victime, on la laisse pas toute seule et on va pas prendre un petit café, évidemment. On reste avec jusqu'à l'arrivée des ambulanciers, des pompiers. Et puis, on surveille et on peut toujours parler à une victime, même si elle est inconsciente. Rien n'est prouvé qu'elle ne vous entend pas, même bien au contraire, c'est sans doute très rassurant pour elle. Les quatre étapes à suivre face à une victime qui a perdu connaissance. Vérifiez l'état de conscience de la victime. Secouez doucement les épaules de la victime. Demandez-lui à voix haute, « Comment vous sentez-vous » Si elle ne réagit pas et ne répond pas, installez-la sur le dos et appelez le secours. Alors évidemment, maintenant, qu'est-ce qui nous manque? On va détailler un petit peu tout ce qu'on a précité, puisqu'on a parlé des voies aériennes, on va y revenir un peu plus précisément, puisqu'il y a des techniques, évidemment. Le basculement de la tête en arrière et le soulèvement du menton pour dégager ces fameuses voies aériennes. Donc une obstruction des voies aériennes par la langue, tout simplement par notre langue, eh bien oui, si on tombe en inconscience, on n'a plus ses réflexes musculaires et la langue est toute molle, peut venir obstruer donc la gorge et l'air ne passe plus ou très difficilement. Alors là, on effectue donc une bascule prudente de la tête en arrière pour libérer un passage d'air entre bien la langue et le palais, puis l'air pourra recirculer normalement dans les voies aériennes, dans la trachée. En cas de perte de conscience, donc les muscles sont relâchés, ce qui provoque une obstruction des voies aériennes par la chute de la langue dans le fond de la gorge. Ce risque peut être écarté en basculant la tête de la victime en arrière et en soulevant son menton, très délicatement toujours. Placez une main sur le front de la victime et positionnez l'extrémité des doigts de l'autre main sous le bout du menton de la victime. Alors tout ça délicatement, puisque la victime est en inconscience, donc on ne pourra pas se plaindre. Si vous lui faites mal, elle ne dira évidemment rien. Basculez délicatement sa tête en arrière, soulevez son menton pour décoller la langue du fond de la gorge et dégagez ainsi les voies aériennes. N'exercez aucune pression sur la région molle située sous le menton. On parle bien du menton. On a un os, une partie dure sur le menton, on touche celle-ci, afin de ne pas entraver la respiration. Alors, si on met les doigts trop profondément sous le menton, on entrave effectivement la respiration, on vient obstruer la voie aérienne. Alors, on vérifie la respiration de la victime. Pour ça, on vérifie que la poitrine de la victime se soulève et s'abaisse régulièrement. On peut poser une main sur la cage thoracique de la victime, sur le ventre. On voit ainsi le mouvement respiratoire. Écoutez les bruits de la respiration en approchant votre oreille de sa bouche et essayez de sentir le souffle de sa respiration en plaçant votre joue auprès de la bouche, sans l'air chaud qui sort éventuellement de la bouche de la victime. On place la victime en position latérale de sécurité. Si la victime a perdu connaissance mais respire normalement, mettez-la sur le côté, en position latérale de sécurité. Cette position permet de dégager les voies aériennes et empêche que la victime ne vomisse dans ses poumons. On imagine très certainement que si la victime a un problème et qu'elle doit régurgiter et qu'elle est donc allongée face d'eau et la tête en l'air, le vomi, le résultat de sa régurgitation, va obstruer, elle va s'étouffer, elle va se noyer dans son propre vomi. Donc on la met sur le côté en cas de régurgitation, ça part directement par terre et pouvoir respirer à la suite. Pour l'enfant et le nourrisson, on dispose éventuellement d'un petit oreiller ou une couverture enroulée derrière son dos pour le rendre plus stable, puisqu'un adulte a une masse quand même différente, donc on arrive à le faire tenir en équilibre sur le côté, en jouant avec les jambes et les bras. Un nourrisson sera plus dur, donc on peut caler avec différents objets. En cas de traumatisme du dos, essayez d'abord d'obtenir un avis du SAMU. Rien n'empêche effectivement d'avoir le portable en mode haut-parleur et de continuer les gestes de secours afin de tourner la victime. Sinon, on la place sur le côté. En cas de convulsion, on met la victime sur le côté après l'arrêt des convulsions et si elle respire normalement. Parler de la technique de la mise en place d'un garrot. Un garrot, donc, si vous ne pouvez pas arrêter un saignement abondant au niveau d'un membre, il faut réaliser un garrot. En quatre phases, donc, premièrement, on entoure le membre au-dessus de la plaie, avec un lien large, on fait deux tours, puis un nœud bien solide, toujours au-dessus de la plaie. Ensuite, on glisse une barre, ce qu'on peut trouver, hein, soit un petit bout de métal ou une barre en bois, un bout de bois. Sous le premier tour, vous voyez l'image, comme ça on vient prendre les deux brins qu'on a fait autour du bras au-dessus du nœud, et avec la branche d'arbre, on vient solidifier le nœud, on vient torillonner au-dessus pour encore serrer plus le lien. Ensuite, on maintient la barre de serrage, c'est-à-dire qu'on refait un nœud sur les tourillons qu'on a fait avec la branche d'arbre sur le garrot, et ça fait arrêter donc la circulation du sang au-dessus de la plaie. Donc on récapitule, si par exemple on a une plaie de saignement abondante, c'est-à-dire qu'on peut pas stopper avec la main ou avec un bandage simple, alors il faut réaliser un garrot. Donc par exemple sur l'avant-bras, n'importe gauche, on a une plaie abondante au-dessus de la main, donc sur le poignet par exemple, il va falloir faire un garrot eh bien au-dessus, c'est-à-dire vers l'épaule et pas vers les doigts, bien au-dessus de plaie abondante. Là, on vient serrer très fort, on prend un tissu large pour prendre le maximum de surface possible. On serre très attentivement, il faut pas hésiter, c'est un garrot, il faut arrêter le saignement. Et pour être sûr que cela ne se relâche pas, on fait un nœud, puis deux nœuds qu'on vient consolider avec une barre, une branche de bois. On prend les deux liens au-dessus et on refait des tours pour serrer et on refait un nœud au-dessus de la branche pour bloquer le mouvement de la branche. Et ensuite, on alerte les professionnels de secours pour venir récupérer la victime le plus tôt possible. Il va falloir évidemment la diriger au CH. Vous savez tout sur le garrot à présent en sauveteur isolé.
Fois, nous avions parlé des compressions thoraciques et des insufflations au cours d'une réanimation cardio-pulmonaire. Eh bien, nous allons rentrer aujourd'hui en détail dans la technique des gestes, des compressions thoraciques et des insufflations. Les compressions thoraciques. Alors, on place la victime sur le dos, si possible sur une surface rigide, le plus souvent à terre. Agenouillez-vous à côté de la victime, on n'enjambe jamais une victime. Placez le talon d'une de vos mains au milieu de sa poitrine nue. Placez le talon de l'autre main sur votre première main. Solidarisez vos deux mains. N'appuyez ni sur les côtés, ni sur la partie inférieure du sternum. Positionnez-vous de façon à ce que vos épaules soient à l'aplomb de la poitrine de la victime. Bras tendus, comprimez verticalement le sternum en l'enfonçant de 5 cm environ. Après chaque pression, laissez la poitrine de la victime reprendre sa position initiale afin de permettre au sang de revenir vers le cœur. Maintenez vos mains en position sur le sternum. La durée de la compression doit être égale à celle du relâchement de la pression de la poitrine. Effectuez 30 compressions thoraciques. À la fois, on avait vu ce rythme de 30 compressions thoraciques de l'insufflation. Donc, on effectue bien 30 compressions thoraciques à une fréquence de 100 à 120 compressions par minute, soit environ 2 compressions par seconde. Alors, il y a un moyen mnémotechnique pour effectuer ce geste. On rajoute la conjonction de coordination et entre chaque seconde. Par exemple, on commence un massage cardiaque, les mains croisées sur la cage thoracique, on vient positionner environ 5 cm environ du buste, on y va pour 30 fois et on compte 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et ainsi de suite. Et en ajoutant cette conjonction de coordination et entre les deux, ça vous aide à maintenir un rythme et à vraiment aller de seconde en seconde. Pratiquez ensuite deux insufflations par la technique du bouche à bouche, on en a parlé la dernière fois. Basculez de nouveau la tête de la victime vers l'arrière et soulevez son menton. Alors là, on y va avec beaucoup de précautions quand on parle de la tête, puisque Il y a évidemment, c'est raccordé au cou, on parle des voies respiratoires, de la trachée. Donc on bascule effectivement la tête de façon à libérer les voies aériennes doucement. Placez une main sur le front et pincez les narines entre le pouce et l'index. De l'autre main, maintenez son menton de telle sorte que sa bouche s'ouvre. Inspirez normalement, penchez-vous vers la victime et couvrez entièrement sa bouche par la vôtre. Insufflez lentement et régulièrement de l'air dans la bouche de la victime tout en vérifiant que sa poitrine se soulève. Chaque insufflation doit durer environ une seconde. Tout en maintenant la tête de la victime basculée en arrière et son menton relevé, redressez-vous légèrement pour vérifier que sa poitrine s'abaisse à l'expiration. Inspirez de nouveau normalement et pratiquez une seconde insufflation. Repositionnez-vous correctement vos mains et pratiquez 30 nouvelles compressions thoraciques. Alors, on va juste voir deux ou trois choses. On bascule la tête, première chose, donc avec parcimonie, très doucement, on vient passer le menton, mettre une main sur le front et on bascule légèrement vers l'arrière pour libérer les voies aériennes. On regarde dans la bouche s'il n'y a pas d'objet qu'on peut extraire avant d'insuffler, évidemment. Donc, on a parlé du bouche à bouche. Il existe, à vous de vous rapprocher, des pharmacies ou des boutiques paramédicales. Il y a du matériel pour faire du bouche à bouche sans effectivement mettre directement en contact votre peau sur la peau de la victime. Ensuite, on abordera toujours ça avec, comment dirais-je, sans paniquer. Si vous-même vous êtes en état de stress intense, vous n'arriverez pas à faire le geste de secours. Donc, avant toute chose, on respire un grand coup et on est là pour aider. Si on se sent pas du tout, on parle à la victime, on essaye de rassurer, tout de suite on appelle les secours. Voilà. Vous savez tout maintenant sur la technique de l'insufflation et sur les techniques des compressions thoraciques. On rappelle le cycle, 30 compressions thoraciques et 2 insufflations par la technique du bouche à bouche. On n'oublie pas d'appeler les secours le plus vite possible, de mettre la victime en sécurité avant tout. On se protège et on alerte les secours tout en continuant et en débutant les gestes de premier secours. Vous savez tout. Très bonne journée.